Alors qu'aux États-Unis, le Parti démocrate a choisi sa candidate en vue de l'élection présidentielle de novembre prochain, alors que le président Macron doit choisir sous peu un premier ministre ou une première ministre pour notre pays, la parole de Dieu nous place aussi, chers frères et sœurs, devant un choix. Pour reprendre le titre d'un ouvrage consacré jadis au cardinal Jean-Marie Lustiger, nous pouvons parler du choix de Dieu. La langue française nous permet de jouer sur le double sens de cette expression, car le choix de Dieu peut s'entendre du choix que nous faisons de Dieu ou bien du choix que Dieu fait de nous. Examinons tour à tour chaque situation. Tout d'abord, faire le choix de Dieu. Oui, mais pourquoi ? Dans la première lecture, il est question de reconnaître les motifs passés de ce choix. Josué, le successeur de Moïse, a fait entrer les Hébreux dans la terre promise par Dieu à Israël. Avant sa mort, il convoque toutes les tribus à Sichem pour les mettre devant leurs responsabilités. Il s'agit de choisir entre, d'une part, la fidélité au Seigneur, lui qui est resté fidèle à son peuple, et d'autre part, l'adoration des dieux étrangers. Le peuple exprime alors les raisons de choisir le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le seul vrai Dieu. Premièrement, Dieu a libéré les Hébreux de l'esclavage. Deuxièmement, il a accompli des signes prodigieux. Troisièmement, il a pris soin d'Israël parmi toutes les nations. Le peuple relit donc l'histoire de l'Alliance pour y trouver des motifs de confiance en Dieu. En ce qui nous concerne, chers frères et sœurs, quels sont les événements qui ont conforté notre foi ? Relire notre parcours de vie comme une histoire sainte nous permet d'y repérer maintes manifestations de la présence de Dieu à nos côtés. Et voyez combien de fois, dans le bonheur ou l'épreuve, le Seigneur nous a donné des gages de sa fidélité. Et c'est peut-être un bon exercice, avant d'envisager la rentrée scolaire, pastorale et tout ce que vous voulez, que de faire retour sur notre histoire sainte personnelle. Dans l'évangile de ce jour, il est plutôt question des motifs présents et à venir pour choisir Dieu. L'évangéliste Jean évoque les réactions des auditeurs de Jésus après le discours dit du pain de vie. Elles sont contrastées, ces réactions, tranchées. Les paroles de Jésus rebutent la foule jusqu'à nombre de ses disciples. Jean souligne que Jésus sait très bien cela et qu'il agit en connaissance de cause. Parler de lui comme du pain vivant descendu du ciel, de sa chair comme d'une vraie nourriture, de son sang comme d'une vraie boisson, parler de la résurrection et de la vie éternelle, en particulier devant ceux qui n'y croient pas, eh bien, cela n'a pourtant rien d'évident. Hier comme aujourd'hui. Et nous, chers frères et sœurs, sommes-nous prêts à prendre notre risque ? Sommes-nous prêts à faire le pari, comme le dirait Blaise Pascal, que les paroles de Jésus sont esprit et vie, qu'elles sont les paroles de la vie éternelle ? Sommes-nous prêts à faire crédit à Jésus, malgré le caractère à première vue déraisonnable de ses paroles ? C'est bien parce que nous croyons qu'il est le Saint de Dieu, le chemin, la vérité et la vie, que nous sommes rassemblés en son nom ce matin et que nous sommes disposés à le servir. Comme Pierre, nous pouvons constater qu'autour de nous, rien ni personne ne peut nous garantir la béatitude comme Jésus. Et que c'est en lui seul que nous sommes pleinement humains, avec de vraies raisons d'espérer pour nous et pour les autres. Je suis persuadé, frères et sœurs, que si je vous interrogeais un à un, vous auriez de bien belles choses à dire pour motiver votre choix de Dieu, des motifs passés, mais aussi des motifs présents et pour l'avenir. Mais n'oublions pas la deuxième interprétation de l'expression « le choix de Dieu ». Et d'ailleurs, pourquoi Dieu nous choisirait-il ? Saint Jean rapporte les propos tenus par le Christ à ses apôtres la veille de sa mort durant la scène. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Et là, nous touchons peut-être aux limites de notre compréhension. Pourquoi Dieu a-t-il choisi des pécheurs de Galilée, des publicains et des zélotes plutôt que des docteurs de la loi ou des prêtres du temple de Jérusalem pour en faire ses apôtres ? Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis, nous ? Si conscients de nos faiblesses et de nos failles, plutôt que de super évangélisateurs pleins de charisme et de compétences personnelles, ou bien des super priants, zélés et persévérants. Oui, pourquoi nous ? Eh bien, chers frères et sœurs, ne cherchons surtout pas à répondre à ces questions, parce qu'elles nous induiraient en erreur sur le dessein du salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité, comme le dit saint Paul. Et s'il semble que certains sont croyants alors que les autres ne le sont pas, c'est tout simplement que les premiers ont fait un choix. Ils ont fait le choix de Dieu, alors que les autres n'ont pas fait ce choix, n'ont pas encore fait ce choix. « Mais c'est terrible, mon père, me direz-vous, à vous entendre, nos enfants et nos petits-enfants, nos amis qui ne croient pas, auraient ainsi délibérément tourné le dos à Dieu ?» Voilà une question pertinente. Comprenez-moi bien, loin de moi l'idée de vous culpabiliser, vous avez sans doute fait beaucoup pour qu'une relation existe et perdure entre vos proches et Dieu. Par vos paroles, par votre témoignage de vie, par le fait que vous êtes là ce matin, que vous êtes fidèle à participer aux grandes fêtes de Pâques, de Noël, etc., etc. Alors, vous n'avez pas à porter le poids d'une désaffection qui vous fait sans doute bien de la peine. La bonne nouvelle n'a rien perdu de sa capacité de provocation. Cette parole est rude, qui peut l'entendre ? Elle a vocation à être entendue de tous pourtant. Encore faut-il qu'elle soit annoncée et reçue. Alors certes, me direz-vous, du côté de l'annonce, le Seigneur accorde des grâces particulières. Mais n'oublions pas, ces grâces sont pour tous. Les dons que Dieu me fait, par exemple, n'ont pas d'autre finalité que la vie éternelle offerte à tous. Et c'est vrai pour chacun de nous. Si nous discernons des grâces particulières que Dieu nous aurait faites, eh bien ces grâces, elles nous sont données pour tous et pas simplement pour nous. Ça, c'est du côté de l'annonce. Et du côté de la réception, eh bien, nous voici confrontés au mystère de la liberté de chacun. Une des explications possibles de la crise spirituelle actuelle dans notre pays, on a noirci bien des pages depuis des décennies sur le sujet, et je ne vais pas ajouter ma petite pierre en prétendant dire des choses très originales, se trouve sans doute justement dans une mauvaise compréhension de la liberté. En tout cas, parmi toutes les hypothèses qui s'offrent à nous, je trouve que celle-ci est très intéressante. Si certains de nos proches, si les hommes et les femmes de notre temps, de manière assez majoritaire, semblent tourner le dos à Dieu, c'est qu'ils n'ont pas très bien compris, à mon avis, ce que signifiait servir Dieu, croire en Dieu. Comme l'affirme le cardinal Lustiger, je le cite, « Servir Dieu, c'est régner. » Servir Dieu, c'est régner. Ça semble paradoxal. Il continue. Nous soumettre à Dieu, ce n'est pas nous avilir, mais nous recevoir de lui la source de notre liberté. Et là encore, comprenons bien ce que veut dire le verbe « se soumettre ». Il ne s'agit pas d'une soumission aveugle, mortifère. Il s'agit simplement, je le pense, accepter de nous laisser choisir par Dieu gratuitement. Accepter de nous laisser choisir par Dieu gratuitement. Alors, voici le choix que nous pouvons peut-être proposer à nos proches, chers frères et sœurs. En relisant les textes de la parole de Dieu, en les méditant, voilà, en priant le Seigneur de nous donner l'attitude juste, les paroles justes vis-à-vis de nos contemporains, eh bien, proposons-leur ce choix de se laisser choisir par Dieu, un Dieu plein de tendresse et plein d'amour, nous le savons. Amen.